On peut se demander s'il est possible d'avoir une définition universellement reconnue des forêts. Est-ce que cette définition, est-ce que donc la façon dont moi je vais penser la forêt est la même que celle d'une personne il y a 3 siècles? Est-ce que la façon que j'ai de penser la forêt va être la même que quelqu'un au sud? Donc toutes ces forêts du monde, comment est-ce qu'on les pense, comment est-ce qu'on les définit et comment est-ce qu'on agit dessus? Donc ce que je vous propose de faire, c'est un petit tour dans quelques forêts du monde. On n'a pas beaucoup de temps, donc ce sera assez vite fait. Mais pour aller voir un peu ce qui se cache derrière les arbres. Et je vais beaucoup parler des relations des hommes à la forêt, et puis aussi des relations entre les hommes à propos des forêts. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui est différent? Les relations des hommes à la forêt, ça fait plutôt référence à ce que pensent les hommes, à ce qu'ils font, à ce qu'ils vont chercher dans la forêt. Par exemple, c'est les connaissances de tel coin à champignons. Ça, on peut dire que ça rentre dans le cadre des relations entre les hommes et les forêts, ou la connaissance des saisons de fructification de telle ou telle espèce fruitière en forêt au Cameroun, ou le comportement de tel ou tel gibier en forêt en Amazonie. Voilà, tout ça, c'est les relations de l'homme à la forêt. Rentre aussi dans cette catégorie ce qu'on va aller faire en forêt. Est-ce qu'on va chercher du bois? Est-ce qu'on va aller pour chercher un peu d'évasion quand on est un citadin? Si on est un paysan, qu'on a reçu en héritage une forêt de son grand-père, eh ben on va y faire des choses dans cette forêt qui seront spécifiques. On va essayer de la gérer comme un patrimoine pour la transmettre éventuellement à ses enfants. Donc ça, c'est les relations des hommes à la forêt. Mais vous voyez déjà, par exemple, une gestion en patrimoine, on parle déjà beaucoup des relations entre les hommes. Là, une forêt reçue en héritage, c'est une relation entre un grand-père, un père et son fils. Donc on n'est pas seulement dans la relation entre des sociétés et un écosystème, on est dans des relations entre les personnes à propos d'un écosystème. Les relations entre les hommes à propos des forêts, ça fait aussi référence à tous les droits. Ça définit qui a le droit d'aller faire quoi dans tel endroit de la forêt et pourquoi c'est lui qui a le droit et pas un autre. Et ça, c'est très important parce que ça régit à peu près toute la dynamique des forêts du monde. Donc, je vais parler un peu de ce qu'on voit, puis beaucoup de ce qu'on ne voit pas dans les forêts. Ce que je voudrais, c'est arriver à vous faire comprendre que la forêt, ça, c'est pas que des arbres. C'est bien autre chose que des arbres. C'est surtout ce que les hommes pensent et ce qu'ils décident pour tous ces espaces qui portent des arbres. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est un peu ébranler quelques évidences et de vous dire, enfin de vous faire comprendre, c'est ma conviction que si à l'heure actuelle, au XXIe siècle, on trouve encore des forêts dans beaucoup d'endroits du monde, c'est vraiment parce que ces forêts, à l'endroit où elles sont, elles ont un sens social. Sinon, ça ferait longtemps qu'il n'y en aurait plus. Donc je ne vais pas vous raconter des histoires d'arbres, je ne suis pas écologue, je vais vous raconter des histoires d'hommes à propos de ces arbres et de ces forêts. Puis voilà, si après vous ne regardez plus les forêts comme avant, eh ben j'aurai gagné quelque chose. Et vous aussi peut-être. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à définir une forêt? Est-ce qu'on peut parler de la forêt? Est-ce qu'il faut parler des forêts? Est-ce que cette définition universelle est possible? En tout cas, elle a été très, très fortement recherchée par les scientifiques. Bon, il y a un certain consensus pour dire que la forêt, c'est un faciès végétal particulier qui est caractérisé par la présence d'arbres et que ces arbres doivent avoir une certaine densité pour former une forêt. Mais il y a plein de questions. Une fois qu'on a dit ça, ça ne résout pas le problème, parce que quand est-ce que plusieurs arbres vont former une forêt? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'il faut mettre des limites? Est-ce que c'est un arbre, 2 arbres, 10 arbres, 20 arbres? Quelle densité par hectare? Qu'est-ce que c'est qu'un arbre par rapport à un arbuste, par rapport à un petit arbre? Où est-ce qu'on va arrêter la limite de taille pour dire ça, on considère ça comme un arbre, et ça, on ne considère pas ça comme un arbre? Est-ce qu'on peut définir une forêt uniquement par ses arbres? Est-ce qu'il y a donc des hauteurs de végétation, des superficies minimales, des densités minimales, des qualités particulières? Et puis, est-ce qu'on exclut ou non l'humanité de la définition de ces forêts? Est-ce qu'on doit parler de l'histoire sociale de ces forêts autant qu'on parle de leur histoire écologique? Alors, que disent les sciences? On attend que les sciences nous éclairent un peu là-dessus. Pour les biologistes, comme je vous l'ai dit, vont avoir tendance, en tant que biologistes, et c'est tout à fait légitime, à s'intéresser à l'écosystème. Les biologistes considèrent la nature comme une réalité autonome, donc qui a un droit d'existence en dehors de toute humanité, qui considèrent aussi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est en train de changer, mais qui ont considéré que l'homme était à l'extérieur de l'écosystème et que quand il intervenait dans le fonctionnement de l'écosystème, c'était plutôt un agent perturbateur qu'un élément du fonctionnement de cet écosystème. Et puis les biologistes, en particulier les écologues, ont recherché l'écosystème le plus naturel possible pour observer comment ça marchait, situation idéale d'observation, c'est ce qu'on appelait le climax autrefois, ce qu'on appelle aujourd'hui la forêt primaire. Puis les sciences sociales vont aborder la forêt de façon tout à fait différente, d'abord en disant que la nature, ce n'est pas une réalité autonome, mais c'est quelque chose qui est produit, qui est construit, et qui est intégré dans le fonctionnement des sociétés. Donc ça n'est pas extérieur à la culture, ni à la société, ni à l'histoire. Et que les faciès forestiers qu'on voit aujourd'hui sont très largement le produit historique de ces rapports entre les sociétés et leur nature au pluriel. Alors est-ce qu'on a deux points de vue? Et dans ce cas-là, où est l'objectivité scientifique? Si les biologistes et les sciences sociales ne sont pas d'accord, bon, peut-être ici, dans le cas des forêts, il s'agit de bien d'autres choses que de la science. La FAO, qui est le grand organisateur des politiques agricoles et forestières, a essayé, au niveau mondial, de donner une définition universelle des forêts. Donc pour la FAO, une forêt est un espace dont le couvert arboré est supérieur à 10%, ça veut dire que la surface des couronnes, quand on prend les feuilles, on projette ça par terre, ça fait une surface virtuelle. Donc ce qui est recouvert par le feuillage des arbres couvre plus de 10% d'une surface. Pour que ce soit une forêt, il faut qu'on ait des petits éléments boisés qui soient supérieurs à un demi-hectare, et on considère un arbre comme un individu dont la hauteur est supérieure à 5 mètres. Ça sert donc de référence internationale, aussi bien pour les forêts boréales que pour les forêts du désert, que pour les forêts tropicales humides. Donc évidemment, cette définition est contestée puisqu'on met sur un même plan toutes les forêts qui n'ont pas du tout ni la même physionomie ni le même fonctionnement. Alors pourquoi une définition? Pourquoi est-ce qu'on cherche absolument une définition? D'abord pour savoir de quoi on parle, mais surtout, il y a des enjeux très importants. Aujourd'hui, on parle beaucoup de déforestation, de régression des forêts ou d'avancée des forêts. Pour ça, il faut avoir des chiffres. Et pour avoir des chiffres, il faut bien savoir ce qu'on va définir. Et selon les définitions qu'on va prendre, la surface forestière au niveau mondial peut varier du simple au triple. Donc c'est pas rien. À partir de la définition qu'on va avoir d'une forêt aussi, on va déduire la déforestation. Et on voit aujourd'hui que, par exemple, en Amazonie, la déforestation est en train de décroître. C'est-à-dire qu'on coupe la forêt moins vite que d'habitude. Au Laos, le couvert forestier repart. Mais on a oublié de voir que la définition des forêts, dans les deux cas, avait changé. Et en particulier dans le cas du Laos, on a aujourd'hui intégré des plantations d'EVA, absolument. Les plantations d'EVA, donc de caoutchouc, sont considérées comme des forêts. Et donc si d'un coup on se met à compter les plantations d'EVA dans les surfaces forestières, c'est sûr que ça va grimper d'un coup. Et on va pouvoir dire, vous voyez, cette année on n'a pas déforesté, on a même plus de forêts que l'année dernière, donc on est des bons élèves, donc on a droit à certaines compensations. Et se mettent aujourd'hui en place, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais dans le cadre de l'atténuation des effets du changement climatique, au niveau des forêts, d'énormes politiques de compensation monétaire pour ce qu'on appelle la déforestation évitée, donc tout ce qu'on aurait pu déforester mais qu'on n'a pas déforesté. Là, c'est des centaines de millions de dollars en jeu, et donc la définition de ce qu'est une forêt, c'est vraiment très important, parce que c'est plus ou moins 100 000, 200 000, 3 millions de dollars. L'Amazonie, un petit chiffre, les subventions dans le cadre de RED, donc ce marché du carbone forestier, c'est 3 à 4 milliards de dollars cette année. Donc la forêt, voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une réalité objective? Et si c'est une réalité objective, est-ce qu'on peut la gérer à travers des instruments techniques, économiques? Ou est-ce que c'est le produit de choix qui sont sociaux, qui sont politiques, qui sont souvent idéologiques? Est-ce que c'est un enjeu de pouvoir, dans bien des cas, définir la forêt? C'est avoir le pouvoir sur la forêt, on le verra tout à l'heure. C'est un enjeu de richesse, oui, la forêt c'est une source de bois, donc forcément quand on contrôle la forêt, on contrôle la richesse. Ça peut être aussi un lieu d'affrontement entre différentes catégories sociales qui n'ont pas la même définition ni les mêmes objectifs sur la forêt. Donc tout ça rentre dans la définition des forêts. Est-ce que la définition des forêts aujourd'hui c'est la même que celle d'hier? Ou est-ce que, comme on va le voir, ça peut dépendre d'un contexte culturel, d'un contexte historique, politique, et puis, ce que j'ai dit en introduction, des systèmes de représentation que nous avons, c'est-à-dire comment est-ce que, à l'intérieur de nous-mêmes, on a pris des tas d'éléments dans notre histoire, dans notre culture, pour se représenter ce qu'est une forêt. On va faire un petit tour au Moyen-Âge, hein, ça va nous rafraîchir. Donc au Moyen-Âge, on avait des tas de forêts. Et on n'avait pas un mot pour la forêt, on en avait plein. Donc d'abord, autour des villages, dans les villages, on pouvait avoir des éléments boisés. Ça faisait plus partie de ce qu'on appelait autrefois hortus. C'est le milieu des jardins, hein. Hortus, horticole, horticulture, c'est tout, c'est donc les jardins, les légumes, les vergers, les arbres fruitiers. Tout ça était à peu près autour des maisons. Et puis il y avait un deuxième cercle, hein, un cercle où on allait pratiquer l'agriculture et l'élevage. Là où on faisait pousser des céréales, donc c'était bien défriché, on appelait ça l'agère, hein, agère, agriculture, c'est le champ. Et puis le reste, on appelait ça le saltus. Le saltus, c'était les jachères, parce qu'une fois, l'agriculture ne se pratiquait pas comme maintenant, on cultivait des céréales pendant 1, 2, 3 ans, et puis on laissait le sol au repos, et là se développaient des buissons, des herbes, et puis si ça durait assez longtemps, ça faisait des petites forêts. Et puis c'était aussi toutes les landes, ce qu'on appelait les landes plus ou moins boisées, tout ça faisait partie du saltus. La garrigue, ici, en milieu méditerranéen, c'est un ancien saltus. C'est là où on emmenait paître le bétail. Un troisième cercle, beaucoup plus arboré, qu'on appelait la silva. Donc la silve, c'était ce nom commun pour désigner ces espaces plus boisés que le saltus. Donc la silva communis, c'est-à-dire la forêt qui appartient à tous les gens du village, la forêt commune, qui se déclinait après comme Silva Consida. Silva Consida, c'est la forêt où on allait chercher le bois de feu. Silva Palaria, c'était une forêt entretenue pour faire des perches, pour faire des constructions. On avait beaucoup besoin de perchis. Et c'est une forêt où les gens des villages, donc les paysans, aller chercher des nourritures, des fruits, des champignons, on y va toujours, hein. Et puis amener les animaux à la glander. Les cochons allaient beaucoup se nourrir en forêt de glands, de châtaignes, de racines. Donc la forêt était un espace important pour l'élevage et puis un complément important de l'agriculture qui fournissait aussi du matériel de construction. Et puis beaucoup plus loin, dans la sylve beaucoup plus profonde, il y avait un espace qui était interdit aux paysans, interdit aux gens du village. On appelait ça la Silva Regia, c'est-à-dire la forêt des rois, la Silva Forestis ou la Foresta. Et là, vous reconnaissez forêt. Le mot forêt, il vient de ce mot foresta. Et forestare, en latin, veut dire mettre à part, exclure. Donc cette forêt, et c'est ce qu'on a retenu dans la forêt, c'est ce que les forestiers ont retenu après, cette forêt était un espace mis à part pour les besoins du seigneur ou du roi. C'est un espace dans lequel le seigneur allait chasser avec ses vassaux. C'est un espace dans lequel les paysans n'avaient pas le droit d'aller. Donc la forêt, dans le sens étymologique de foresta, est définie par l'exclusion. Et ça, c'est très important. Parce que tout le corps des forestiers qui ont après aménagé la forêt, ce corps a été édifié pour protéger ces forêts royales, pour protéger la foresta, donc pour empêcher les paysans de venir dans ce domaine royal. Et toute la science forestière s'est basée là-dessus. Donc cette notion d'exclusion de domaines particuliers en dehors du commun, c'est quelque chose de très historiquement ancré. la forêt, oui, c'est un objet à facettes multiples. Il y a un livre qui avait été publié qui s'appelait « Les mille et une forêts ». Oui, il y a des forêts aussi différentes qu'il y a d'endroits, de civilisations sur cette planète. Bon, on va, une fois qu'on a dit ça, on peut quand même essayer de serrer un peu. Et on peut voir que dans les forêts, il y a quatre grosses catégories distinctes qui ne sont pas toujours superposables, auxquelles on fait référence quand on parle de forêt. D'abord, c'est bien évidemment l'écosystème, hein, le système biologique et écologique, le lieu de la biodiversité. C'est souvent celui-là qu'on met en avant. Il y a un domaine de production, donc on l'a dit, c'est une somme de ressources économiques exploitables, du bois, des ressources non ligneuses, des composants phytochimiques qu'on va retrouver dans nos médicaments. C'est aussi, on l'a vu, on le verra encore, un espace qui est socialement construit avec des droits, avec des pratiques qui ont modifié les aspects de cet écosystème, des espaces qui ont une valeur soit pour des individus, soit pour des collectifs, voire même pour des nations, et qui peuvent avoir des valeurs en tant que patrimoine, c'est-à-dire quelque chose dont on a hérité et qu'on va transmettre aux générations suivantes. Ça peut être aussi une valeur plus mythique, une valeur identitaire. Par exemple, dans le cas des châtaigneraies, beaucoup de communautés d'agriculteurs se reconnaissent comme les cultivateurs de la châtaigne. Donc une grosse notion d'identité, et puis ça peut être aussi des constructions plus religieuses. C'est aussi un enjeu géopolitique. On peut faire la guerre pour des forêts. On a fait la guerre pour des forêts, pour les richesses des forêts, souvent pour la ressource foncière, c'est-à-dire la terre, hein, la forêt donc qu'on peut transformer. Et puis les forêts aussi ont servi de refuge, ont servi de tampon entre deux nations qui se faisaient la guerre. Donc une notion de géostratégie, de géopolitique qui est très importante. C'est pour ça qu'avoir le contrôle sur des forêts est politiquement, peut-être politiquement, très important. La forêt fait partie des territoires et contrôler la forêt, c'est vraiment un instrument politique. Alors quand on dit notre forêt, c'est la forêt de qui? Et ça, c'est selon que moi je parle, qu'un forestier va parler. Qu'une civilisation urbaine va parler ou qu'une civilisation agricole va parler. Notre forêt, le nôtre, va être recouvrir des réalités bien différentes. Et ça renvoie à qui appartient la forêt? Qui va finalement avoir la légitimité de parler au nom de la forêt, de prendre des décisions au nom de la forêt, pour la forêt? Donc on va voir ça à travers deux exemples un peu plus fouillés. Le premier, c'est la forêt d'Arganier du Maroc. Vous avez sans doute tous entendu parler de l'huile d'argan. C'est très à la mode depuis quelques années. On en trouve dans les épiceries, ça se consomme, et puis on en trouve beaucoup dans les cosmétiques parce que ça rend jeune et belle. C'est surtout pour les dames. Ça se fait maintenant pour les messieurs. L'huile d'argan provient d'un arbre qui s'appelle l'arganier. Et on va voir comment le niveau national, le niveau international et le niveau local définissent la forêt d'arganier. Qu'est-ce qu'ils mettent derrière tout ça et comment ces trois niveaux de définition sont difficilement superposables alors qu'ils s'appliquent au même espace. Donc la forêt d'Arganier, c'est une forêt unique en son genre qui occupe tout le sud-ouest du Maroc. Et cette forêt, c'est pas rien, ça couvre à peu près, un tout petit peu moins, qu'un million d'hectares. Un million d'hectares, c'est beaucoup, c'est pas une petite forêt anecdotique, hein, on n'est pas dans la forêt des Baux-de-Provence. On est dans la forêt d'Arganier, à peu près 1 million d'hectares. C'est une forêt qui est habitée par 2,5 millions de personnes. Alors, ils ne sont pas tous agriculteurs, mais la plupart de ces 2,5 millions de personnes vivent de la forêt d'Arganier, directement ou indirectement. Donc, là aussi, ça n'est pas rien. Ce n'est pas trois villages qui se battent en duel, c'est 2,5 millions de personnes. Donc la forêt d'Arganier, au niveau national, comment est-ce qu'elle est perçue, définie et gérée? C'est d'abord une forêt domaniale. Alors ce qu'on appelle une forêt domaniale, c'est une forêt qui est propriété de l'État. En France, on a ça aussi, on a des forêts domaniales, des grandes forêts, qui sont les forêts d'État, qui autrefois étaient les forêts royales. Au Maroc, quand c'est une administration forestière qui a été tout à fait calquée sur l'administration forestière française. Et tout ce qui était forêt a été a priori défini comme appartenant au royaume. On est dans une forêt, dans un royaume marocain, sauf si on pouvait localement prouver des droits de propriété. Ça a été fait partout, hein. C'est fait en Indonésie, ça a été fait quand Louis XV est arrivé en Corse. L'administration forestière a décrété toutes les forêts de Corse forêts royales, à moins que des titres de propriété ne puissent être fournis sur les forêts. Donc quand on est dans des forêts dont la propriété est communale, il n'y a pas de titre reconnu, puisque dans ces systèmes juridiques n'est reconnue que la propriété individuelle. Donc voilà, une forêt domaniale, propriété de l'État, qui va donc décider de la façon dont seront gérées ces forêts. La forêt d'Arganier, l'État marocain a bien compris qu'il y avait 2,5 millions de personnes, ça fait beaucoup. Et contrairement à certaines autres forêts au Maroc, en particulier la forêt de cèdre, pour la forêt d'Arganier, certains droits sont reconnus aux populations, certains usages, excusez-moi, sont reconnus aux populations locales. C'est-à-dire que les droits locaux de propriété ne sont pas reconnus, mais on autorise les agriculteurs à avoir certaines pratiques dans l'écosystème forestier, donc en particulier l'élevage. Les agriculteurs ont le droit de mener paître leurs troupeaux de chèvres et de moutons dans la forêt d'Arganier qui appartient à l'État. Les populations locales ont le droit de récolter les noix d'argan. Les populations locales, à certains endroits, ont le droit de cultiver les céréales, le blé ou l'orge, dans la forêt d'Arganier. Mais la gestion de la forêt est globalement définie par les services forestiers, le ministère des Forêts, et la principale utilisation de la forêt d'Arganier, c'est pour le charbon de bois. Donc il y a encore des charbonnières, et pour faire du charbon de bois, il faut couper à blanc de grandes surfaces d'Arganier. On verra que c'est complètement opposé à la gestion locale de la forêt d'Arganier. Donc les forestiers, quand ils vont aménager leur forêt d'Arganier, ils vont décider de zones où on va couper complètement tous les arganiers pour faire du charbon de bois. Et une fois que ces forêts ont été coupées, il va falloir que l'arganier se régénère. C'est un peu comme le charme. Je ne sais pas si vous connaissez le charme ici. On fait pas mal de bois de feu avec le charme. C'est un peu plus au nord qu'ici. Mais bon, le chêne vert, c'est pareil. Quand on coupe le chêne vert, ça rejette. Ça fait plein de troncs. Donc on ne va pas tuer l'individu. Et pour régénérer la forêt, pour régénérer une forêt de chêne vert, pour régénérer un taillis de charme ou pour régénérer une forêt d'arganier, on va mettre en défense. Ça veut dire qu'on va interdire aux agriculteurs d'aller en particulier amener leurs troupeaux, parce que sinon ils risquent de grignoter les petites pousses et donc il n'y aura pas de régénération. Donc toutes ces zones-là sont mises en défense pour 10, 15, 20 ans. Ça veut dire que c'est des zones qui sont, là on revient à cette notion d'exclusion dont je parlais tout à l'heure, c'est des zones dont les habitants locaux ne peuvent pas bénéficier. Donc on voit qu'il y a potentiellement des conflits entre ce que voudraient faire les agriculteurs dans cette forêt d'Arganier et ce que font les forestiers. Au niveau international, la forêt d'Arganier, depuis les années, la fin des années 80, 1980, la communauté internationale, à travers la coopération allemande entre autres, s'est intéressée à la forêt d'Arganier. Pourquoi ? L'arganier est un arbre qui intéresse beaucoup les botanistes. On l'appelle fossile vivant. Alors, je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais c'est le seul représentant non tropical d'une famille qui s'appelle les sapotacées, qui est une famille de grands arbres au niveau de l'équateur, en particulier en Afrique et en Amérique. Les sapotacées, c'est des gros arbres qui font du bon bois. Je pense que le moabi, je ne sais pas si vous avez entendu parler du moabi, c'est une sapotacée, donc belle essence forestière africaine. L'arganier, c'est le seul représentant de cette famille qu'on va trouver en dehors de la forêt tropicale humide. Et puis la forêt d'Arganier, c'est aussi la seule forêt, c'est les derniers restes d'une forêt qui, à l'ère tertiaire, était beaucoup plus étendue et qui couvrait une grande partie du Maghreb. Aujourd'hui, on ne la trouve plus que dans le sud-ouest marocain. Alors la communauté internationale s'est intéressée à la forêt d'Arganier parce qu'on n'a pas arrêté de lui dire que la forêt d'Arganier était en danger, que les arbres étaient en train de mourir, que si on ne faisait pas quelque chose, bientôt il n'y en aurait plus, et que donc il fallait une mobilisation internationale pour défendre, conserver, protéger la forêt d'Arganier. Donc la coopération internationale est arrivée avec deux stratégies hein, qui correspondaient à deux grandes idéologies différentes. Première stratégie pour protéger la forêt d'Arganier, c'est la création d'une réserve de biosphère. Donc c'est l'UNESCO qui détient cette appellation des réserves de biosphère, qui aide à la mise en place de ces réserves. Donc toute la zone de l'Arganeray, c'est-à-dire à peu près ce million d'hectares, a été décrétée réserve de biosphère. Ça implique des zonages. Ça implique qu'on va dire, dans certains endroits, c'est des zones d'utilisation réduite ou de non-utilisation, de protection totale. Donc dans ces endroits-là, on n'a plus le droit de rien faire. Donc tout ça est encore en discussion, c'est-à-dire que le plan d'aménagement de la réserve de biosphère n'est pas complètement opérationnel, mais le statut est décrété. Donc toute l'Arganeray est une réserve de biosphère, ce qui montre bien son importance pour la communauté internationale. Et puis il y a une deuxième stratégie pour protéger les forêts, qui est plus une stratégie de développement. Ça date aussi des années 90. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour protéger les forêts, la biodiversité? On voit que quand on met ça en réserve, ça ne marche pas toujours. Et si on développait certains produits forestiers, ça permettrait peut-être aux populations locales, parce qu'on pensait que c'est évidemment les populations locales qui représentaient le plus grand danger pour la forêt, si on développe certains produits, ça permettra aux populations locales d'avoir un certain revenu, donc ça les empêchera d'aller abîmer la forêt ailleurs. C'est un peu simpliste, c'est surtout basé sur l'hypothèse que le principal danger pour la forêt, c'est bien les agriculteurs du coin, hein. On ne parle pas d'autre chose. Et donc, il y a des tas de projets dans le monde qui se sont construits pour développer des produits forestiers. Donc la coopération allemande, japonaise, française, américaine, se sont lancées dans ces grands projets de développement d'un produit et d'un seul, l'huile d'argan. Parce que des études ont été faites sur l'huile d'argan qui ont montré que c'était une huile très bonne pour la santé, très riche en oméga 3, 6 et 12, je ne sais pas si ça existe les 12, mais voilà, en tout cas très bonne pour la santé et qu'il fallait la faire connaître au monde entier. Donc ce développement de l'huile d'argan s'est fait aussi à travers le développement de coopératives, en particulier de coopératives de femmes, parce que derrière il y avait aussi une volonté de sortir la femme de son niveau de sous-développement, en tout cas de sous-éducation. Et donc des tas de coopératives se sont montées. Les femmes, au début le principe était très équitable, hein. Chaque femme devait apporter sa récolte de noix d'argan récoltée sous ses arganiers, devait procéder au décortiquage des noix et puis à la fabrication de l'huile. Tout ça a été commercialisé sous une marque collective et les bénéfices étaient redistribués entre les femmes membres de la coopérative. Puis tout ça, ça s'est un peu transformé. Très vite, on a mécanisé, parce que c'est beaucoup de travail de fabriquer de l'huile d'argan. Et puis, pourquoi, on est quand même au XXIe siècle, pourquoi ne pas avoir recours à certaines avancées techniques, et donc en particulier les presses à huile. Mais finalement, les presses à huile, ça n'a pas besoin de beaucoup de femmes pour faire marcher ça. Et les femmes se sont retrouvées. La seule chose qu'on n'a pas su mécaniser, c'est le cassage des noix. Et donc le seul travail que font maintenant les femmes des coopératives, c'est casser les noix. Et casser les noix toute la journée, c'est pas rigolo, c'est pas vraiment épanouissant pour les femmes. Et puis aussi, pour vous montrer, on sort du sujet, mais un des biais de ce développement bien pensant, développer la femme, c'est très bien. Les coopératives étaient, c'est pas moi qui ai quelque chose contre, hein. Faire de l'alphabétisation, c'est très bien, et c'était une partie des activités des coopératives. La plupart des femmes qui étaient adhérentes aux coopératives étaient des veuves ou des divorcées, qui avaient des enfants à charge. Donc très bien, ça leur donne un revenu, là on est toujours, ça va bien. Seulement voilà, quand la mère va à la coopérative, les enfants ils restent à la maison. Et les petits-enfants, on ne peut pas les laisser tout seuls à la maison. Et on n'a pas pensé à faire des crèches avec les coopératives. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, pour garder les enfants, on a appelé la fille aînée, qu'on a sortie de l'école, et on lui a dit, maintenant, tu vas garder les petits frères et les petites sœurs. Donc oui, la mère, on l'a alphabétisée, et puis la fille, on l'a désalphabétisée. Donc voilà, un des biais, on ne peut pas tout mesurer, mais bon, un des biais de ces de projets de développement qui ne vont pas au bout de leur logique. C'était la parenthèse. Donc, cette coopération internationale a développé un produit, l'huile d'argan, sans s'intéresser aux autres produits de la forêt d'Arganier. Elle a mis en avant les femmes, et donc les hommes n'étaient pas très contents. Ça a créé aussi certains conflits au niveau du village, en tout cas un vrai mal-être. Et puis la coopération internationale a donc présenté la forêt d'Arganier comme une forêt en danger. Alors on va voir ce qui se passe au niveau local. Est-ce que c'est une forêt en danger, un écosystème naturel en danger ? Le principal danger étant l'agriculteur et surtout l'éleveur avec ses troupeaux de chèvres. Et donc pour protéger, pour régénérer cette forêt en danger, des replantations, alors sur des grandes échelles, et puis autre technique qui est la mise en défense. Donc sur ces deux techniques de régénération de la forêt d'Arganier, les agriculteurs n'ont rien à faire. Ils ne sont pas conviés d'ailleurs à participer à ces opérations. Alors au niveau local, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au niveau local, la forêt d'Arganier, de notre point de vue, qui avons donc tous les chercheurs qui ont en ethnologie mené des recherches là-dessus, c'est une forêt domestiquée. Donc ce n'est pas une forêt sauvage et on va voir où se place la domestication. Donc l'Arganier, c'est un arbre. Alors ce n'est pas comme le châtaignier, hein, ce n'est pas un arbre qui a des variétés bien définies, greffées, ce n'est pas non plus un pommier. C'est un arbre qui peut prendre différentes formes. Et toutes ces formes prises par l'arganier sont des formes qui sont voulues par les agriculteurs. Pour avoir un bel arbre, il faut vraiment travailler sur la forme. Parce que quand ça pousse un arganier, ben très vite, il y a une tige, et puis après, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, qui ont à peu près toute la même taille. Et si on veut qu'il y ait une ou deux tiges qui fassent un ou deux troncs, il va falloir couper toutes les autres tiges. Puis une fois qu'on a l'arbre, l'arganier, ça rejette de partout. Donc si on laisse les rejets pousser, on va avoir un buisson au pied de l'arganier. Donc pour avoir un bel arbre, il va falloir couper, tailler. Et puis l'arganier, ben, ça sert à tout. Ça sert en particulier à faire des haies. Et donc les haies d'arganier, c'est des... Les agriculteurs ont découvert quelque chose que les forestiers ignorent encore, c'est un scoop, je vous le livre. L'arganier est un arbre qui drageonne, c'est-à-dire que le long des racines, il va de temps en temps y avoir un rejet. C'est ça qu'on appelle le drageonnage. Et les agriculteurs se sont servis de cette faculté de l'arganier à drageonner pour faire des haies. Donc on prend les drageons, on essaye, en blessant les racines, d'avoir de plus en plus de drageons, vont pousser des petits arganiers qu'on va tresser, qu'on va contraindre par des tas de techniques, en particulier en mettant des pierres. Alors on dit, mais c'est pas une vraie technique, on jette des cailloux. Non, on jette pas des cailloux, on met des pierres à certains endroits, justement, pour que les branches se courbent. Et donc, il y a tout un système de haies d'arganiers très important, puisque c'est plein de bestiaux partout, hein, de moutons, de chèvres, et qu'on n'a pas du tout envie que les moutons et les chèvres aillent dans les champs de céréales pour aller croquer le blé ou l'orge. Donc ces haies sont très importantes dans le maillage du territoire. Et puis ce qu'on connaît surtout, c'est l'arganier arbre à chèvres. Hein. Les chèvres se nourrissent de l'arganier, mais en plus elles grimpent dedans. Et bien pour grimper sur un arganier, une chèvre, ça ne va pas sauter à 2 mètres de haut. Donc les arbres sont façonnés de façon à ce que les chèvres puissent grimper dedans. C'est-à-dire qu'on va essayer d'incliner les branches basses. Et puis quand ça ne marche pas, et ben, les agriculteurs font des petits escaliers avec des pierres pour que les chèvres puissent grimper dans les arbres. Et puis il y a cette autre forme de l'arganier qu'on appelle un rocher vert. Ça ressemble à un rocher vert. Hein. C'est un arbre qui a été tellement pâturé qu'il n'a plus rien d'un arbre. Et on verra à quel point cette forme-là est aussi une forme voulue par les agriculteurs. Donc voilà, toutes ces différentes formes de l'arganier qui montrent comment, à travers ces pratiques, à travers la sélection, les agriculteurs ont pu domestiquer, entre guillemets. Hein, on n'est pas dans de la sélection variétale, mais domestiquer cet arbre. La domestication, c'est aussi au niveau du paysage. Quand on est dans cette vallée, le paysage, donc en bas-fond, on a cette zone d'arganeraie qui est dédiée à l'agriculture. Donc des beaux arbres, on a vu pourquoi ils étaient beaux, avec des champs de céréales. C'est là aussi qu'on trouve des oliviers et des amandiers. Et puis, c'est là aussi qu'on trouve ces systèmes défensifs, donc de haies denses ou plutôt d'arganiers alignés. Quand on va monter un peu derrière les villages, donc dans des milieux un peu plus secs, on va se trouver dans le domaine où les familles mènent leurs troupeaux tous les jours. Donc ces zones-là ont des limites bien définies et les droits sont bien définis aussi. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de murets qui vont dire la propriété de M. Untel s'arrête là et celle de son cousin commence à côté, les droits sont connus et reconnus par tout le monde. C'est-à-dire que sur des bandes qui montent depuis les maisons jusque dans la montagne, c'est une certaine famille qui aura le droit d'amener ses troupeaux et pas l'autre. L'autre aura le droit d'amener ses troupeaux à un autre endroit. Donc on est dans des systèmes de propriété commune, lignagère, parce que c'est des lignages, c'est des bouts de famille, alors que dans les zones des champs, on était dans des propriétés familiales, c'est-à-dire que c'était un individu et sa famille qui avaient le droit, qui avaient des droits de propriété reconnus au niveau local. Et puis on a une zone du territoire, et là on retrouve ces arganiers qu'on appelle des rochers verts, une zone du territoire qui est propriété de tout le village, et dans laquelle n'importe qui du village a le droit d'emmener ses troupeaux tous les jours, si on veut. Et donc il y a une grosse pression de pâturage sur les arbres, et effectivement là la forêt, on peut dire, mon Dieu, la forêt est dégradée, la forêt est en danger. Et cette zone surpâturée est très importante parce que pendant la saison des arganiers, la saison des noix d'argan, quand on va récolter les noix d'argan, il ne faut pas laisser les troupeaux venir dans l'arganeraie, sinon les chèvres vont manger toutes les noix, si en plus elles peuvent les manger par terre, c'est encore mieux. Donc il faut pendant toute une saison, 3 semaines, 1 mois, empêcher les animaux d'aller sur les terres des lignages. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'une chèvre, ça devrait quand même manger tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire de ces animaux? Eh bien, on va les mettre sur ces terres collectives. Ça veut dire que ces terres, oui, les arbres ils souffrent, ils sont surpâturés, mais c'est bien grâce à ça que dans le reste du territoire, on peut avoir une belle forêt d'arganiers. C'est bien grâce à ça que dans le reste du territoire, on peut continuer à récolter des noix d'argan. Donc cette zone de pâturage collectif a un rôle très important dans la production, un rôle social très important, parce que ceux qui n'ont pas de terre peuvent quand même faire paître leurs troupeaux à cet endroit-là. Et puis, les agriculteurs savent bien que si un jour on met ces zones-là en défense, c'est-à-dire que si on arrête d'amener les troupeaux, très vite, eh bien, il va y avoir, les arbres vont reprendre le dessus, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pousse d'arganier qui va surgir, qui sera plus mangée par le bétail et qui, peu à peu, va pouvoir reconstituer un arbre. Donc, les forestiers appellent ça des rochers verts et les paysans appellent ça un compte en banque. On va passer, et ce sera le dernier exemple, à la forêt tropicale pour voir que les choses ne sont pas si différentes que ça. Et qu'au niveau de la forêt tropicale, on a aussi trois, c'est un peu caricatural, mais on peut définir ces trois niveaux de définition différents, donc l'international, le national et le local, et que là encore, c'est pas du tout en cohérence. Et que si c'est pas en cohérence, ça peut amener des conflits, donc ça peut amener de la destruction. Donc au niveau national, encore une fois, et bien, ça se trouve, c'est tellement banal qu'on n'en parle plus, ça se trouve dans presque tous les pays du monde, encore une fois, une grande partie du domaine forestier est décrétée domaine national. Donc on est dans une forêt propriété de l'État indonésien en l'occurrence. En Indonésie, 80% de la forêt est domaine d'État, propriété de l'État. Et la forêt couvrait 97%. Du pays. Donc même s'il n'y a plus de forêt, c'est toujours propriété de l'État. Dans le cas de l'Indonésie, les droits des populations locales sont complètement niés. Il y a des gens partout, forcément, l'Indonésie c'est un grand pays, ça a 280 millions d'habitants, il y a des gens partout. Ces gens-là ont des droits, qu'on appelle des droits coutumiers, c'est des droits qui sont définis au niveau local, reconnus au niveau local, mais au niveau national, ces droits-là, on ne les reconnaît pas. Et il n'y a pas que les droits qu'on ne reconnaît pas, on ne reconnaît pas non plus les savoirs. et en particulier les savoirs qui portent sur la forêt. Donc au niveau du ministère des Forêts, on vous dit très clairement, les paysans, ils ne savent pas gérer la forêt. La pire chose qu'on puisse faire pour une forêt, c'est de la donner à un paysan. Ils n'ont aucun savoir lié à la forêt. On va voir à quel point c'est loin des réalités locales. Donc négation des droits, négation des pratiques. Et on le verra un peu plus tard, c'est-à-dire que non seulement on nie aux paysans le fait d'avoir un savoir forestier, mais on nie aussi le fait qu'ils ont des pratiques qui puissent gérer un écosystème forestier. Alors évidemment, tout ça, quand c'est multiplié par 250 millions, 280 millions d'habitants, ça amène à de nombreux conflits, conflits d'usage, conflits d'intérêts, conflits de droits, et dans bien des cas, à des destructions. On a beaucoup parlé dans les années 90 des feux de forêt en Indonésie. Une grande partie de ces feux de forêt était due à ces conflits entre la raison d'État et ce que l'État voulait faire de ces forêts, et puis la raison des populations locales qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que l'État voulait faire, parce que pour elles, ça voulait dire plus de terres, plus d'endroits pour faire de l'agriculture, plus de villages. Alors tout n'est pas noir, hein. L'État s'est bien rendu compte qu'il ne pouvait pas non plus faire totalement abstraction des populations locales, et donc ont été mis en place des projets qu'on appelle des projets de foresterie communautaire, c'est-à-dire qu'on va faire participer les populations locales à des projets forestiers. Alors souvent, ce n'est pas des projets d'exploitation forestière, c'est des projets de reforestation. Donc ça veut dire en gros que les populations locales n'ont pas vraiment droit aux bénéfices de l'exploitation, mais une fois que tout est fichu, on va leur demander de participer à l'effort de guerre, c'est-à-dire à l'effort de reforestation. Bon, déjà, ce n'est pas forcément équitable. Mais en plus, cette foresterie communautaire se fait toujours donc sur des projets qui sont décidés par le ministère des Forêts avec des normes, qui sont des normes des forestiers professionnels. On ne va pas demander leur avis aux populations locales sur voilà, qu'est-ce que vous voudriez faire avec cette forêt, qu'est-ce qui vous intéresserait comme arbre. Non, on va leur dire, on va planter de l'eucalyptus, on va planter de l'acacia, qui sont deux espèces qui ne sont pas des espèces locales et qui n'ont aucune utilité pour les populations locales, mais on va leur dire... Bon, on vous donne du coup le droit de planter pendant 2-3 ans des cultures entre les pieds d'eucalyptus ou les pieds d'acacia. C'est ce qu'on appelle la foresterie communautaire. Donc beaucoup de conflits avec les populations locales. Et quand je parle de conflits, on va revenir à... Quand je parle de conflits, c'est des conflits armés. C'est-à-dire que sur l'île de Bornéo, la politique forestière, elle se fait avec l'armée. Quand les populations ne sont pas d'accord, on envoie l'armée. Là, on est vraiment en état de guerre. Ces conflits entre l'État et les populations locales à propos des forêts, mais à propos des forêts, à propos des terres, à propos des ressources forestières, ce sont de vrais conflits armés. C'est pas de l'anecdote. Hein. Au niveau international, et bien un peu comme dans la forêt d'Arganier, ce qui intéresse la communauté internationale dans les forêts, et là, vous ne pourrez qu'être d'accord, c'est l'environnement. C'est l'environnement. Quand on parle de la forêt tropicale, on en parle pour la biodiversité, on en parle pour le climat. Donc la communauté internationale va s'intéresser aux forêts dans le monde en général par le biais des questions d'environnement. La forêt tropicale en danger, on n'entend que ça tous les jours. Et donc pourquoi c'est important ? Mais d'abord parce que la forêt tropicale, c'est le milieu terrestre le plus riche en espèces. Donc c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Et que cette biodiversité, quand la forêt disparaît, la biodiversité associée va disparaître. Comment est-ce qu'on répond à une situation de forêt en danger ? On va dire qu'on va faire de la conservation. Et si c'est très en danger, on fait de la conservation totale. Et dans le cas des forêts tropicales, c'est ce qu'on a longtemps essayé de faire. C'est-à-dire des systèmes d'air protégés. On appelle ça, en langage professionnel, des aires protégées. C'est-à-dire, en gros, des parcs. Des réserves, des parcs nationaux, des parcs régionaux, des réserves de chasse, etc. Avec des législations variables, parce que toutes ces réserves ont des statuts variables, mais en général, ce qui est commun, c'est que toutes les activités humaines sont prohibées. Ça veut dire que les gens du coin, au mieux, ils n'ont pas le droit, ils n'ont plus le droit d'y aller, et au pire, ils sont chassés, souvent, avec, ce que je disais tout à l'heure, avec l'armée. C'est ce qu'on appelait dans les colonies françaises le déguerpissement. Donc on enlève les populations des parcs nationaux pour protéger la biodiversité. Et puis aujourd'hui, ce qui est de plus en plus important, c'est toutes ces questions autour du changement climatique. La forêt tropicale a un rôle important dans le cycle du carbone. Et donc, on va gérer la forêt aujourd'hui au niveau international, avec des tas de mécanismes pour le carbone. Je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Là, la biodiversité, ça n'attirait pas. Il était difficile de mobiliser des fonds internationaux pour la biodiversité, quoi qu'on ait pu le faire. Pour le changement climatique, c'est complètement différent, dans la mesure où les pays industrialisés qui ont signé l'accord de Kyoto se sont engagés à réduire leur émission de gaz de carbone, de dioxyde de carbone. Et donc, il y a des tas de mécanismes pour ça, en particulier des mécanismes financiers, des compensations financières. Et donc là, les pays du Nord ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à mettre sur la table pour sauver les forêts au Sud, pour que dans le Nord, on puisse continuer à émettre du gaz carbonique. Donc là on rigole plus avec le carbone. Hein. Et donc, ça a une énorme importance sur tout ce qui va se passer à partir de maintenant sur les forêts tropicales. Donc, au niveau local, comment est-ce qu'on gère la forêt? De façon complètement différente. Là encore, on est dans un milieu de vie. Là encore, on est sur une somme de ressources. Et dans beaucoup de cas, ces forêts, elles sont reconstruites. Donc, comment est-ce qu'on peut parler de forêt naturelle et gérer ça sans faire attention aux populations qui les habitent et qui les ont reconstruites, ces forêts? Donc, il est un peu tard, je n'ai pas vraiment le temps de poursuivre, mais ces forêts sont construites grâce à ces systèmes d'abattis brûlis. Donc ils sont complètement liés à la pratique agricole. Je pense que vous aurez une conférence là-dessus, donc je n'insisterai pas. Donc c'est des systèmes qui sont mis en place à travers les champs de riz. Hein, ils sont mis en place à travers divers systèmes de plantation d'arbres. Et les arbres qui sont plantés sont des arbres forestiers. Là, on n'est pas dans de l'eucalyptus ou de l'acacia, on est dans des grands arbres forestiers. Dans cette façon de reconstruire des forêts, en particulier en Indonésie, il y a toujours un équilibre subtil entre la technique et la nature, entre ce que l'homme va faire et ce que la nature va faire. Et l'homme va au maximum essayer de s'insérer dans ces dynamiques naturelles, encore une fois parce que la force de travail est limitée. On ne peut pas y aller à grands coups de technique. Les forestiers, ils peuvent défricher, planter sur des dizaines de milliers d'hectares, mettre des herbicides de partout. Les paysans, ils ne peuvent pas faire ça, ils n'ont pas les moyens. Donc ils ont trouvé d'autres moyens de construire, reconstruire des forêts en profitant au maximum du fonctionnement de la forêt elle-même. En France aujourd'hui, on essaye de retourner à ça. On appelle ça de l'ingénierie écologique. On essaye de retrouver ces systèmes où finalement la nature, elle ferait un peu notre boulot plutôt que d'aller contre la nature par la technique. Donc voilà, cet équilibre subtil entre technique, nature, entre nature et culture, j'insiste pas, on pourra en reparler une autre fois si vous voulez. Donc une forêt reconstruite qui donne des tas de produits, hein, des produits, des fruits, du bois, et puis ce produit autour duquel elle a été reconstruite, c'est-à-dire une résine qui est commercialisée au niveau international parce que ça sert de cicatif dans les peintures et les vernis. Donc des paysans qui sont directement au contact du marché international. On n'est pas chez des sauvages perdus en pleine forêt. De toute façon, cette chose-là n'existe plus, sauf dans nos mythes. Donc ce qui est important dans ces forêts domestiques, c'est aussi toute l'incorporation de représentations, de rituels, de droits. C'est aussi toute cette création de solidarité intergénérationnelle. Et là, on est vraiment dans le patrimoine. Quand on plante un arbre, on le plante pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Donc il faut assortir ça de droits pour fonder des patrimoines qui seront transmis de génération en génération. Donc ça aussi, ça fait partie de la domestication de l'écosystème. Et donc, vous voyez que là, on est dans des systèmes de droit complètement différents des systèmes de droit définis au niveau international ou national. Voilà, il y a beaucoup d'enjeux dans la forêt qui sont portés par des niveaux supérieurs, hein, l'environnement, par la communauté internationale, le bois, la rente ou la réserve foncière, qui sont plutôt portés par des niveaux nationaux. Et puis, cette forêt domestique qui est définie à un niveau local. Et autant la forêt environnement, ou la forêt bois, ou la forêt rente, ou la forêt foncière peuvent s'entendre. Les politiques ne sont pas nécessairement contradictoires. Autant elles ont du mal à accommoder les réalités locales de cette forêt domestique. Et il y a une vraie scission entre la vision de la forêt, la définition de la forêt, les politiques forestières définies à un niveau supérieur, dans l'intérêt public, hein, toujours, et puis ce qui se passe au niveau local. Et tout ça n'est pas forcément bon pour la forêt. Le choix d'une définition de la forêt, c'est le socle sur lequel se construisent les rapports économiques, les rapports sociaux et les rapports politiques qui déterminent le devenir des forêts du globe. Donc c'est pas anecdotique. Et on voit bien qu'on est là plus dans une histoire de rapport entre les hommes à propos des forêts que dans un rapport entre des hommes et des forêts ou dans une construction issue des sciences biologiques. Voilà, et pour moi, la forêt, c'est avant tout une histoire d'hommes plutôt qu'une histoire d'arbres. Bien sûr, il y a autre chose que les hommes, mais les hommes et ce que racontent les hommes à propos des forêts et ce qu'ils font, c'est déterminant dans le fonctionnement des forêts au XXIe siècle.